Voilà, nous sommes à peu près au milieu de l'année. Les mois se sont écoulés depuis le mois de janvier. Et je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, pour les Français, nous prenons souvent de bonnes dispositions lors du nouvel an. Nous en profitons pour prendre de nouvelles décisions, engager de nouveaux projets pour notre vie, pour notre poids, pour tout un ensemble de choses. Nous essayons de faire des choses que nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent, ce que nous appelons de bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous en avez pris des résolutions en janvier, et je ne sais pas si elles sont devenues, si vous les avez tenues. Il m'arrivait bien souvent d'en prendre et de ne pas les tenir longtemps. Quelques heures, quelques jours, on a l'illusion que tout est possible par la force de sa volonté, que l'on peut ce que l'on veut. La volonté humaine est un don merveilleux de Dieu, mais elle est souvent bien prétentieuse, bien inconsciente. Par contre, chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, nous pouvons nous appuyer sur la volonté et les résolutions de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, il le décide et cela s'accomplit. Merci beaucoup, c'est pas grave, merci. Je vais trinquer avec moi-même. Merci, c'est gentil. Quand Dieu prend une résolution, il la tient. Parce que Dieu a les moyens de ses intentions. Ce qu'il veut, il peut vraiment le faire. Notre Dieu est tout-puissant. Il est celui qui est. Il est Dieu. Tout est possible. Tout est possible à Dieu. Voilà la vérité que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin, au travers du texte que nous allons méditer, sur lequel nous allons méditer ensemble. Nous voulons voir comment tout devient possible par l'action de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes ou à écouter la lecture biblique au chapitre 12 à partir du verset 1. Dans le livre des Actes au chapitre 12 à partir du verset 1. Acte 12, verset 1. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats. Des sentinelles, postées devant la porte, gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Et ils lui dirent « Mais tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs, puis sortit et s'en alla dans un autre endroit. » On va s'arrêter là. Tout est possible à Dieu, mes amis. Tout est possible à Dieu, tout d'abord pour délivrer son peuple. Tout est possible à Dieu pour délivrer son peuple. Pour délivrer son peuple malgré les circonstances. Nous voyons dans les premiers versets de ce passage du chapitre 12 du livre des Actes qu'il y a une grande persécution qui vient frapper les chrétiens. Il nous est parlé d'Hérode qui régna de 37 à 44 après Jésus-Christ, un homme dont on voit qu'il est rempli de jalousie, un homme qui n'a que le désir de plaire aux hommes. Il a l'intention, par la stratégie qu'il déploie lors de cette persécution, de faire une démonstration de force. Il veut marquer un grand coup pour asseoir son autorité, dire qu'il est le chef. C'est de la démagogie, bien évidemment, de la démagogie extrême. Il veut simplement que son action de persécution envers Jacques, envers Pierre, envers l'Église débouche sur une sentence populaire qui n'a pas grand-chose à voir avec la justice. Il veut faire du grand spectacle pour sa propre gloire. Et voilà d'une certaine manière que l'histoire recommence une nouvelle fois. Comme Pharaon se mit à opprimer son peuple en Égypte parce que celui-ci s'accroissait en nombre, Hérode, soudain, répond au désir des Juifs de voir anéanti l'accroissement de l'influence des chrétiens et de leur doctrine. Hérode veut un auditoire, il veut une tribune, il veut une salle de spectacle. Il veut mobiliser les télés d'infos continues pour sa gloire personnelle. Il veut se faire un maximum d'audimat sur le bon dos, bien gentil, des chrétiens. Il pense que l'exécution de Pierre devant la foule rassemblée lors de la Pâque sera l'occasion rêvée d'accroître sa renommée et de montrer sa puissance et son autorité. Les raisons qui l'amènent à persécuter l'Église de Jésus-Christ ne sont pas fondamentalement religieuses. C'est un homme qui veut juste plaire aux Juifs. Comme ce fut le cas pour Pilate, lors du jugement inique qui tomba sur Jésus. Les attaques de notre adversaire, le diable, se dissimulent derrière Hérode. La persécution de l'Église se met en œuvre dans le cœur d'un homme pour des raisons irrationnelles, démagogiques. C'est d'autant plus frustrant pour ceux qui sont victimes de la persécution. C'est même pas pour des bonnes raisons qu'on est persécuté. C'est pour du vent. Il y a dans ces premiers versets, d'une certaine manière, trois formes de maltraitance qui nous sont rapportées. La maltraitance des membres de l'Église, nous disent le verset 1, des peines et des poids et des fardeaux que socialement Hérode fait peser sur l'ensemble des chrétiens. Vraisemblablement des intimidations, des choses de ce genre, des impossibilités de travailler avec tel ou tel à cause de leur statut de chrétien. Il y a ensuite un meurtre, celui de Jacques, et enfin l'arrestation de Pierre, qui doit, dans l'esprit d'Hérode, déboucher sur sa mort. Voilà un petit peu la stratégie qu'Hérode déploie pour s'en prendre à l'Église de Jésus-Christ. Jacques, lui, va mourir par l'épée. Et peut-être ce n'est pas anodin. Peut-être il essaye de trouver un motif religieux pour plaire aux Juifs et supprimer Jacques. Le livre du Deutéronome, en effet, nous dit, au chapitre 13, à partir du verset 13, je vais vous lire, « Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a données pour habitation que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur ville en les habitant à aller servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Tu feras des recherches, tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Est-ce vrai? Le fait est-il établi? Pardon. Cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi? Écoutez bien. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la voueras à la destruction, avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. » Il veut, Hérode, habiller sa méchanceté sous des habits de religiosité, de spiritualité, en faisant passer les chrétiens pour, non seulement pour des infidèles, mais pour des idolâtres. Quelle souffrance lorsqu'on aime Jésus-Christ et qu'on a le désir de communiquer Jésus-Christ à nos ennemis. Quelle souffrance d'être ainsi malmené. Dans cette période de la Pâque qui rappelle aux judéo-chrétiens de l'époque la délivrance d'Égypte et la mort et la résurrection de Jésus tout en même temps, eh bien, voilà nos frères et sœurs de l'Église première ramener un sentiment d'être oppressés et peut-être momentanément de se sentir vaincus, terrassés par Hérode et sa puissance manifestée. Pourtant, mes amis, cette persécution va devenir l'occasion de vivre pour l'Église, la jeune Église, l'Église première, une Pâque mémorable, dont la jeune communauté des disciples de Jésus-Christ se souviendra et qui nous est rapportée jusqu'à aujourd'hui. Dieu, en effet, prépare au travers de cette persécution, et particulièrement celle de Pierre, une délivrance extraordinaire. Il va faire éclater sa gloire devant tous. Au verset 5, nous lisons que Pierre était donc gardé dans la prison de l'Église, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Excusez-moi. L'Église, donc, prie, une prière qui dure vraisemblablement très longtemps, et nous voyons comme par contraste une disproportion entre les moyens déployés par Hérode pour organiser son show et les moyens qui sont à la disposition, moyens matériels, humains, qui sont à la disposition des chrétiens. Que fait Hérode ? Il réunit 4 fois 4 soldats qui devaient se relayer dans la nuit pour garder le redoutable Pierre, cet homme qui était devenu finalement, par l'action du Saint-Esprit, doux comme un agneau. C'est plus, en effet, pour montrer son pouvoir et sa fermeté que par crainte de voir son prisonnier se défaire de lui-même de ses chaînes qu'Hérode le fait ainsi escorter et garder par les soldats. Qu'a-t-il à craindre aussi des chrétiens ? Qu'a-t-il à craindre d'eux ? Tout le monde sait qu'on peut les piétiner très facilement. Pierre, jusqu'à ce stade du récit de sa vie, il a déjà bien roulé sa bosse au service du Seigneur. Pierre, il a enseigné, il a proclamé, il a guéri, il a accompagné des résurrections. Mais surtout, il apprend. Pierre apprend. Pierre est un disciple qui continue à apprendre. Il va auprès de Corneille, il apprend à ouvrir son cœur à ceux qui ne sont pas juifs. Il visite les églises, et puis ensuite, en visitant les églises, il vit au jour le jour, selon que l'Esprit le conduit à agir ou parler. Il a déjà connu la captivité. Arrêté avec Jean, il sera libéré, comme vous le savez, dans un autre récit. Il continuera à prêcher alors qu'on lui interdit. Maintenant, il continue dans cette prison, entouré par ses gardes, à apprendre, à mettre en pratique ce que son maître, Jésus-Christ, lui a enseigné. Et une des choses qu'il est en train d'apprendre, je crois, ici, c'est d'apprendre à dormir. Il me semble qu'il apprend à dormir. Cet épisode de la vie de Pierre me rappelle la sieste de Jésus dans la barque au milieu de la tempête, quand les disciples, tout affolés, tout excités, ne savaient plus à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire, et où Jésus, sortant de son sommeil, a parlé aux éléments et les a fait taire magistralement. Pierre a assisté à ça. Il a vu qu'on pouvait dormir au milieu d'un ouragan. Et il est en train de le mettre en pratique. L'ouragan, c'est sa captivité. Demain, il va être jugé de manière inique, il va mourir. Aucun chrétien ne va prendre des baïonnettes, des machettes, ou je ne sais trop quel instrument, pour venir le délivrer. Et puis, Jésus-Christ ne lui a-t-il pas dit que sa fin serait difficile, qu'on l'emmènerait où il ne veut pas aller ? Voilà, il n'est pas à l'hôtel, il n'a pas réservé un 5 étoiles. Il est là, il n'est pas là de son plein gré. Il est en prison. Alors Pierre a sans doute prié en abondance son Dieu, comme Jésus priait son Père. Mais maintenant il se repose, mes amis. Il se repose, le texte nous le dit. L'Église, par contre, prie. L'Église prie à quelques centaines de mètres de lui, avec la même expression qu'on retrouve dans le texte qui décrivait la ferveur des prières de Jésus dans le jardin. Donc, il priait, mais c'était... je pense qu'il jeûnait en même temps, c'était intense. C'était un combat, c'était de la prière de supplication. Je pense qu'il pleurait, qu'il criait à Dieu, qu'il suppliait Dieu d'intervenir. Ça devait être spectaculaire. Et Pierre se repose. À quoi pensons-nous quand nous voulons ressembler à Jésus ? À quoi pensons-nous lorsque nous voulons marcher avec lui ? À faire ? À remplir des activités ? À organiser ? À accomplir des œuvres ? Alors oui, il y en a qui sont préparés pour nous. Pierre en a accompli aussi. Mais savons-nous nous reposer en lui ? Savons-nous nous reposer en lui physiquement ? Savons-nous nous déconnecter, décrocher ? Soyez sobres, dit l'Écriture. Vaquez à la prière. Savons-nous prendre une bonne sieste pour dire au Seigneur, je prends cette bonne sieste parce que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, j'ai passé un bon moment avec toi et ma sieste est l'expression de ma confiance en toi. Parce que je t'aime, je me repose. Parce que je t'aime, je me repose. Une sieste pour ta gloire. Ésaïe disait, ne crains rien. L'Éternel disait, dans la bouche d'Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Soudain, un ange du Seigneur, verset 7, survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite, les chaînes tombèrent de ses mains. » Puis l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales, c'est ce qu'il fit. » L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, qui m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre n'est pas vraiment lucide quand l'ange intervint. Il dort, il est dans le cirage, il dort, quoi. Il est sous anesthésie générale. D'accord ? Et au point que l'ange lui dit « Comment s'habiller ?» Il dit « Tu t'habilles d'abord, tu mets ça, puis ensuite tu mets ça, et puis... » Voilà, il croit avoir une vision, nous dira le texte après. Donc, Pierre est le témoin, le spectateur de la puissance de Dieu dans sa vie. Et rien ne résiste à la puissance de Dieu. Ni les chaînes, ni les portes avec les gardes multiples. Dans cette maison, qui est vraisemblablement très grande, il y a beaucoup de portes, et toutes les portes sont peuvent être franchis par des serviteurs du maître de la maison. La dernière, non. Les esclaves, serviteurs du maître de la maison, ne peuvent pas les franchir pour aller à l'extérieur, comme ça. Mais Pierre, lui, il franchit avec l'ange toutes les portes. Rien ne lui résiste. Rien ne résiste à la puissance de Dieu. Et la dernière porte même s'ouvre automatiquement. Ça devait être pour lui, enfin, il devait rêver, quoi. Moi, je suis encore émerveillé de voir dans les commerces, je suis les portes qui s'ouvrent automatiquement. Voilà, vous, il y a des jeunes ici, vous êtes nés avec ça, vous n'avez connu que ça, pas moi. Tout à l'heure, j'ai pris l'escalator pour monter, l'escalator, il m'attendait sans bouger. Je dis, je vais avancer vers toi, escalator, j'avance vers l'escalator, je mets le pied dessus, et vous ? Ça m'émerveille encore un petit peu. Et voilà, des petites choses m'émerveillent comme ça. Imaginez Pierre, la porte qui normalement ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas pour un serviteur, elle s'ouvre encore moins pour un prisonnier. Elle s'ouvre, et le voilà dehors. L'intervention de Dieu apporte la libération. Elle apporte aussi la gloire. La gloire n'est pas sur Pierre, elle est sur Dieu, car il dit « Je reconnais maintenant, je comprends. Je comprends que Dieu a envoyé son ange. » Et elle est une source d'encouragement pour l'Église, parce que à qui pense Pierre ? Pierre pense à qui, une fois qu'il a rendu gloire à Dieu et qu'il a compris que sa puissance s'était manifestée ? À l'Église de Jésus-Christ. Il réfléchit et il se dit « Maintenant, je vais vers l'Église. » Je vais vers mes frères, je vais vers mes sœurs qui doivent s'inquiéter et prier pour moi. Tout est possible à Dieu pour délivrer son peuple malgré les circonstances. Dieu choisit ici le moment pour la délivrance, juste avant l'exécution prévue et au moment de la Pâque. J'ai le sentiment que Pierre était prêt à mourir, car il avait conscience que tout était ligué contre lui et que Hérode était soumis à l'empereur et aux autorités religieuses juives assoiffées du désir de le voir mourir. Et puis Dieu n'avait-il pas permis que Jacques, très peu de temps avant, soit exécuté ? Dieu n'avait pas empêché le meurtre de Jacques. Il n'y a aucune raison pour moi, Pierre, qui ne suis pas meilleur que lui, qu'il empêche mon exécution. Pierre n'était pas en train d'imaginer nécessairement une porte de sortie comme celle que Dieu lui a donnée. Je pense qu'il était prêt à rejoindre son maître et son seigneur. Il est délivré. C'est le mot choisi par Pierre pour parler de l'intervention de Dieu. Quel meilleur mot pour évoquer la Pâque ? A-t-il repensé à tout cela, à tous les épisodes de la Pâque juive et de la résurrection de son Sauveur ? Que de parallèles, en effet, pouvons-nous faire avec ces événements historiques ? Il y a là, auprès de Pierre, la présence d'un ange, comme la veille du départ d'Égypte, du peuple élu, et lors de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des soldats impuissants en Égypte et des gardes aveugles, comme lors de la résurrection de Jésus-Christ. Je ne peux pas m'empêcher de faire ces parallèles qui nous parlent de la même puissance de Dieu mise en œuvre, qui nous raconte le récit du plan de Dieu, dans lequel s'insère celui de Pierre, qui n'est que finalement, par sa vie, par son arrestation, par sa libération, une proclamation de la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Jacques fut délivré. Oui, Jacques fut délivré. Il a été exécuté, mais n'a-t-il pas rejoint son maître ? N'a-t-il pas rejoint l'éternité ? Il fut délivré d'une manière différente lorsqu'il mourut, mais il fut délivré pour de bon. Ce fut un coup dur pour l'Église de perdre Jacques. Ce fut un coup dur de perdre un responsable, de perdre un leader, de perdre quelqu'un qui les représentait aux yeux des autres. Mais quel encouragement de constater pour eux que par l'arrestation de Pierre, le Seigneur reste le maître et que la Pâque, encore une fois, sera célébrée comme Dieu l'entend. Ce n'est pas Hérode qui décide comment la Pâque des chrétiens et des juifs doit se vivre. C'est le Sauveur. De manière éclatante, il le démontre. Tout est possible à Dieu pour délivrer son peuple. Avez-vous besoin qu'il vous délivre ? Êtes-vous retenu par des chaînes, celles du péché, celles de l'inquiétude ? Des personnes qui, vous avez l'impression, ont pris l'ascendant sur vous alors qu'elles ne devraient pas ? Êtes-vous professionnellement ou financièrement ou mis dans une situation dans laquelle vous ne savez pas comment sortir ? Et faites confiance à la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Il vous délivrera. il nous délivrera. C'est sa spécialité. Il l'a manifesté en Égypte, il l'a manifesté à la croix en nous libérant de la puissance des ténèbres. Il l'a démontré de manière éclatante à la résurrection pour nous rendre libres de la mort et de l'esclavage du péché. Tout est possible à Dieu pour consoler son peuple également. Chapitre 12, verset 13, Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Il lui dit « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Là aussi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la réaction qu'eurent les disciples lorsqu'ils apprirent par les femmes la résurrection de Jésus. C'est pareil, les femmes vont voir le tombeau, il est vide, ils vont voir les apôtres, dont Pierre, et puis beaucoup sont sceptiques. Et d'une certaine manière, je suis tenté d'aller jusqu'à dire que la délivrance de Pierre est du même acabit, de la même tonalité que la résurrection de Jésus-Christ. C'est par la même puissance, et ça produit d'une certaine manière, humainement, pour ceux qui voient ce qui se passe, les mêmes effets. Alors ça ne remplace pas la résurrection, ce n'est pas la résurrection, d'accord, je n'ai pas dit ça. Mais il y a quelque chose qui nous renvoie à Jésus, il y a quelque chose. C'est un miracle du même ordre en un sens, car initié par le même maître. Sa sortie de prison, lui qui était condamné à mort, équivaut d'une certaine manière à une sortie du tombeau. Et donc, voilà, ils sont sceptiques, ils ne croient pas, et Pierre continuait à frapper. Entre parenthèses, c'est intéressant que de multiples portes dont les mieux gardées de la ville peuvent s'ouvrir miraculeusement, mais que les chrétiens ont des fois de la peine à ouvrir la porte, leur porte à d'autres chrétiens. C'est une petite boutade. Mais ça m'a fait réfléchir. Et je me dis, on se retrouve dans la maison de Marie, dans toute l'humanité de l'Église, avec toutes ses faiblesses, ses incertitudes, ses approximations. Et Pierre ne parvient pas à rentrer dans une maison qu'il connaît, avec des gens qu'il connaît, alors qu'il est sorti d'une prison fermée à double tour. Donc Pierre continue à frapper, verset 16, ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur avait tiré de la prison. Et il ajouta, annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Les chrétiens qui ont prié pour Pierre avec beaucoup d'ardeur, bien qu'ils semblent spirituellement engagés, consacrés, ils prennent vraiment au sérieux leur responsabilité d'Église, franchement, ils sont quand même un peu longs à croire. Ils ont du mal à croire à la réalité de ce qu'ils voient. En voyant Pierre, ils ont prié pour sa délivrance, ils le voient, ils traitent la servante de folle. C'est vraiment toute notre humanité, ça. Hein? Notre esprit bien disposé et notre chair si faible. Toujours lent, un peu à croire. Ces chrétiens aussi ont des lacunes théologiques. C'est quoi cette histoire d'ange, de Pierre, là? C'est pas Pierre, c'est son ange. C'est une tradition juive qui consistait à dire que l'ange gardien prend la forme de son protégé. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Ce sont des traditions, des connaissances qui n'étaient pas complètes chez eux encore. Ils ne savaient pas tout. Et Dieu, malgré tout, les utilise. C'est important de se dire qu'on ne connaît pas tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je pense que Pierre, quand il était dans la prison, il s'est dit, je vis une expérience unique, nouvelle. Je peux être déstabilisé parce que je ne sais pas comment ça va finir. Je ne connais pas tout. Il ne savait pas comment il allait être délivré. Nous, chrétiens, quelquefois, on est invités par l'Écriture à acquérir de la connaissance. L'apôtre Pierre lui-même nous le dit dans son épître. Joignez votre foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. Donc, c'est une chose sainte que de rechercher la connaissance que l'on met en pratique en Jésus-Christ. Mais franchement, quelque part, je crois qu'on croit qu'on sait beaucoup trop, quoi, qu'on sait beaucoup de choses. Et il y en a beaucoup qu'on ignore. Moi, j'ai été 20 ans pasteur dans une église. Et depuis deux ans, je n'arrête pas de me souvenir de ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. J'ai dit des bêtises. Ma théologie n'était pas toujours... Alors, bien sûr, la confession de foi, ça ne bouge pas, d'accord, depuis des siècles, c'est clair. Mais sur des sujets secondaires ou pratiques, j'ai dit des erreurs, j'ai induit des gens en erreur. Je me suis trompé. D'accord ? Et Dieu a continué à se servir au milieu de mon imperfection, de se servir de moi. Ça, c'est bon de se souvenir. Alors oui, la Bible nous dit qu'on doit devenir des maîtres. Mais c'est quoi un maître, selon Jésus ? C'est quoi un maître ? Celui qui veut être le serviteur de tous ? Hein ? Celui qui veut être le premier, qui soit le serviteur de tous ? Ça veut dire qu'il soit humble. Donc oui, vous allez être des maîtres en connaissance. Mais plus vous allez grandir en connaissance, plus normalement, vous devez vous humilier et rechercher la dernière place pour servir chacun. Méfions-nous, ne soyons pas des sachants. La seule chose, je pense, qu'on peut vraiment savoir avec certitude, avec notre confession de foi, qui nous a été révélée dans l'Écriture, c'est qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et cela doit induire chez nous une attitude qui nous éloigne de la condamnation des autres. Qui nous éloigne de la condamnation des autres. Je m'occupe d'un de mes enfants qui a des soucis. On a mis du temps pour comprendre ce qu'il y avait. Mon cœur a beaucoup changé, celui de ma femme a beaucoup changé ces deux dernières années. Parce qu'on ne s'attendait pas à voir la situation que l'on vit. Et j'ai réfléchi sur le regard que j'avais sur les autres chrétiens dans mon église qui avaient des enfants qui ne réagissaient pas nécessairement comme moi j'imaginais qu'un enfant chrétien devait réagir. Et franchement, ça m'a beaucoup humilié. Et j'ai appris j'apprends à moins condamner avec ma grille toute faite, d'idées toutes faites qui ne sont pas toujours bibliques, qui manquent bien souvent de cette énorme et large miséricorde de Dieu qui surpasse tout. Quand je suis venu ce matin en voiture, j'avançais vers les montagnes, c'est bizarre, j'avais l'impression qu'elles s'éloignaient, je pense que c'est un effet d'optique, mais j'arrivais à embrasser toutes vos belles montagnes. Je me disais, ça c'est la miséricorde, c'est grand, la miséricorde de Dieu encore plus grande. Et je racontais à quelqu'un tout à l'heure que quand je vois les montagnes chez vous, j'ai le souffle coupé tellement c'est beau. Et je pense que plus on contemple la miséricorde de Dieu, normalement à un moment donné, on est, c'est trop beau quoi. Dieu m'a tellement aimé en Jésus-Christ, moi qui ne méritais rien si ce n'est le jugement. Moi qui méritais d'être condamné, jugé, montré du doigt par Jésus. Il n'a pas fait ça. C'est lui qui est devenu malédiction pour moi, qui est devenu péché pour moi. Et donc j'apprends jour après jour à ne pas condamner. Le chrétien juge de tout, ça veut dire qu'il doit exercer son jugement, son discernement. Mais ce jugement, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une sentence systématique pour enfoncer les autres. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore. Ce peuple de l'Église première est aussi faible en logistique. Ils ont une maison, il y a d'autres maisons dans lesquelles ils se réunissent. Bon, ils n'ont pas des super chorales, ils n'ont pas des écrans plasma qui donnent la route pour le culte, ils n'ont pas des contextes vraiment matériels qui leur permet d'organiser des super activités, des super programmes. Ils se contentent juste pour l'instant, à ce stade de l'histoire de l'Église, d'être ensemble autour de Jésus, comme le firent les apôtres lors de la Pentecôte. Attendre que Dieu agisse. Ils le font dans un contexte de persécution. Ils sont faibles, faibles en logistique, faibles en connaissance. Ils sont faibles en foi, comme je l'ai dit, et pourtant Dieu agit avec puissance au milieu d'eux. Il va les consoler par la libération de Pierre. Il va les consoler du meurtre de Jacques. Il va leur redonner l'espérance et leur permettre de maintenir leur confiance en Dieu en produisant envers lui des actions de grâce. Tout est possible à Dieu pour délivrer son peuple, pour consoler son peuple. Je ne vais pas lire la fin du chapitre 12, mais je vous encourage à le lire chez vous, si vous le souhaitez. Nous voyons dans ce passage que Pierre s'efface, si je puis dire. Il disparaît un peu, et puis après, dans les autres textes, c'est Paul qui va prendre le relais. Donc on arrive à un passage un peu clé dans l'Écriture, où Pierre vient vraiment à une fin de parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne garde pas le focus sur lui. Il nous parle d'Hérode, qui va être jugé par Dieu et qui va mourir comme Pharaon fut frappé par Dieu. Et je pense encore ce parallèle entre les Juifs qui avançaient vers la mer, qui allait s'ouvrir, mais dont ils ne savaient pas qu'elle allait s'ouvrir et qui allait engloutir leurs ennemis, et Pierre qui avance vers la mort et qui ne sait pas du tout que la porte va s'ouvrir. Et la Bible est tellement merveilleuse quand on la contemple pour elle-même et par elle-même et avec elle-même. Et voilà, tout ça pour dire que Pierre s'estompe et que, d'une certaine manière, l'Église, elle a perdu Jacques, elle a perdu Pierre aussi, d'une certaine façon. Les leaders s'en vont. Je me dis, pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tu coupes les têtes ? On imagine que tout va se structurer encore autour d'eux. Peut-être que le Seigneur, c'est sûr, a voulu disperser sa parole, et peut-être aussi qu'il n'a pas voulu que les chrétiens construisent un système religieux comme les Juifs avaient construit leur système religieux. Il ne veut pas que les chrétiens construisent leur système religieux autour de personnes, même des leaders formidables. Les leaders ne sont pas indispensables. Dieu peut en trouver d'autres. Vous savez, quand John est parti de notre église de Rueil, on était tous là. On fait quoi maintenant ? C'était juste pas possible d'imaginer que l'église à Rueil continue sans John. Ouais, et puis oui, elle continue. Je pense l'une des leçons qu'ont retiré ces chrétiens, c'est que l'église continue par la puissance de Dieu et que Dieu continue à agir. Il a frappé l'autorité, l'une des autorités les plus éminentes en châtiant Hérode lorsqu'ils veulent se prendre pour Dieu. Et il le fait sans avoir recours à des leaders dans l'Église. Alors les leaders dans l'Église sont indispensables. Ils nous rendent témoignage, ils nous enseignent, nous guident, ce sont nos bergers. Nous devons les considérer avec respect, avoir une ardente affection pour eux. Mais construisons notre foi en regardant à Jésus-Christ, premièrement, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à sa perfection. Ce matin, j'ai dit à ma femme, je vais aller prêcher. Moi, j'y vais un peu, je suis comme une vapeur, moi, je passe. Parce que c'est comme ça, nous sommes des êtres humains. Et je prie que le Seigneur parle ce matin à l'un ou à l'autre ou à tous par sa parole. Avez-vous besoin d'être délivré ? Avez-vous besoin d'être consolé ? Comptez sur la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Rien ne s'arrête dans la vie d'une église, quelles que soient les circonstances qui la traversent, quel que soit son vécu. Jésus continue à construire son église, à l'édifier autour de lui, et regardez à Jésus de tout votre cœur pour vous réjouir en lui. Je vais prier. Notre Père Céleste, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Tu nous aimes au-delà de ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de concevoir. Et si nous réalisions la grandeur, la profondeur de ton amour, même en comprenant le sacrifice de ton Fils, je pense que nous serions tous terrassés. Tu nous as tellement aimés gratuitement, volontairement, nous qui n'étions pas aimables. Nous qui méritions ta colère et ton jugement, tu nous as arrachés à tout cela par l'action de ton Fils. On veut te louer, on veut te dire merci, on veut t'acclamer pour ça. On veut te dire encore que la puissance qui a été manifestée lors de ta résurrection, lors de ta mort aussi, qui a été manifestée à la Pentecôte, qui fut manifestée lors de la libération de Pierre, lors des proclamations de l'Évangile, lors de la diffusion de cet Évangile par Étienne et tous tes autres enfants, cette puissance agit encore au milieu de nous, pourvu que nous nous reconnaissions comme faibles, comme demandeurs de toi, comme dépendants de toi, comme n'étant pas ceux qui savent tout, mais ceux qui savent que tu sais tout et qu'on peut s'approcher de toi pour trouver la sagesse, pour trouver grâce dans tous nos besoins. Oui, Seigneur, je prie pour cette assemblée, pour tes bien-aimés ici, qui marchent avec toi, qui te suivent, qui t'aiment de tout leur cœur, qui, comme moi, font ce qu'ils peuvent pour rester fidèles à toi. Je prie pour que tu leur accordes délivrance, consolation, exactement là où ils en ont besoin ce matin, pour eux, pour leur famille. Nous te prions aussi pour toutes ces personnes dans cette ville, dans ses alentours, qui ont besoin d'être touchées par toi. Seigneur Jésus, tu as utilisé Pierre dans toutes les circonstances. Utilise-nous dans les circonstances de nos vies pour porter ta parole, pour faire connaître notre témoignage et pour que beaucoup soient sauvés et délivrés et t'adorent et te remercient. Seigneur, on te bénit pour ton œuvre ici. On te remercie parce que tu agis avec puissance, fidélité, parce que tu tiens cette Église entre tes mains comme personne ne peut la tenir. Et où on te dit merci, t'adorer pour cela. Par Jésus-Christ. Amen.